Merci Isaac, merci Christian, merci pour avoir organisé un colloque sur la tolérance. Le sujet, comme vous le savez, date de très longtemps, depuis le 17-18e siècle, donc à l'époque des Lumières. Pourquoi a-t-on besoin encore ce matin d'un autre colloque sur la tolérance? C'est la première question que je me suis posée quand on m'a lancé l'invitation, que j'ai acceptée très volontiers. J'ai répondu par la place des organisateurs, mais à ma façon, pour que je puisse dire quelque chose sur ce sujet très d'actualité, toujours d'actualité en réalité, parce que la tolérance, ce n'est pas seulement la violence, le respect de l'autre dans l'espace public, mais c'est aussi la violence, l'intolérance au niveau des relations privées, qui est très courante. L'intolérance est aussi l'intolérance et la tolérance, c'est la même chose. Dans nos débats académiques, à quoi ça sert un discours en gros sur la tolérance? Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Voilà, c'est régler la chose. Parce que nous aspirons toujours à vivre dans un monde débarrassé de préjugés et de clichés qui pourrissent nos relations sociales et peuvent donc conduire à des identités meurtrières. Comme dirait Hadi Amin Malouf, l'académicien et écrivain franco-libanais, écrivain tout court. Et donc, tout d'abord, on tente, en quelque sorte, de renouer avec l'esprit des Lumières, afin de mettre les dogmes religieux et identitaires à leur place. Le seul culte dans ce cas-là, que ce soit le culte religieux ou identitaire, étant de penser la place de l'autre dans le dialogue. Je n'invente rien, je répète les clichés. Vous avez reconnu aussi ma dette à Emmanuel Levinas, penser l'humanité de l'autre homme. Ce colloque a donc ainsi un double but. Et si je me limite à l'Afrique, pour des besoins méthodologiques, seulement, on pourrait en dire autant pour d'autres espaces. Le premier but, à mon avis, est actuel. Nous faisons face à la montée de l'intolérance politique dans ce continent depuis l'esclavagisme et la colonisation. Mais c'est trop loin. Pourquoi continuer à en parler? Parce que nous espérons toujours, c'est ça, vivre, c'est espérer. Si on cesse d'espérer, on ne vit plus en tant qu'individu, mais aussi en tant que communauté. Donc on en parle, parce qu'on espère mieux. En 2010, le continent a célébré les 50 ans de l'ère des indépendances avec emphase. Des travaux ont été faits, des cérémonies, des anniversaires. Cette période correspondait en principe à la fin des humiliations coloniales et à l'avènement des temps nouveaux, avec l'espoir que la tolérance trouvera sa place dans l'espace public, social et culturel. Des révolutions anticoloniales, légitimées avec la violence, je fais appel ici à Frantz Fanon, ont pourtant engendré des monstres presque partout. Ici et là donc, des guerres civiles ont pris le relais des massacres coloniaux. Biafra, Congo, Rwanda, Mozambique, Angola, Éthiopie, et j'en passe. Et plus récemment, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, et j'en passe. De telles figures reposent autant de figures d'intolérance dont le summum aura été pour l'Afrique, pour le Rwanda, le génocide du Rwanda, et qui a posé d'autres problématiques. Qui est responsable de la violence? Durant la colonie, c'était l'autre, le dominateur. Mais le milicien avec la machette, c'est l'Africain, le monstre de l'indépendance. De telles figures posent donc la question du vivre ensemble pour des communautés relevant de langue, de religion et d'ethnies différentes dans l'espace de l'État-nation postcolonial. C'est le défi de générations anciennes, des générations de nos pères, de notre génération et de la génération de nos enfants. Parce que c'est historique. Et l'histoire, c'est ce qui a lieu et qui a des conséquences dans les temps futurs. Dans ce débat sur l'intolérance, alors, et je quitte le débat, que peut la littérature ? Pas grand-chose, vous me direz. Que peuvent être les mots pour dire un tel indicible ? Ce cadre général posé, donc, ma communication se divise en trois parties. Premièrement, je vais essayer de faire la synthèse sur les grands axes de la discussion sur la tolérance. D'abord, moi-même, pour comprendre comment le phénomène a eu lieu. Qu'est-ce qu'on en a dit ? En deuxième lieu, il s'agira de montrer que le débat sur la tolérance qui occupe une place décisive dans la littérature africaine passe par l'ironie et d'autres figures de distanciation. Je pars de l'idée que l'ironie est à la fois une figure et une attitude fonctionnant comme un double jeu, faire entendre une chose tout en disant formellement le contraire. C'est ça la définition classique de l'ironie. Mais l'ironie, c'est aussi une attitude. J'y reviendrai. En déconstruisant ainsi les discours politiques et religieux en conflit avec la liberté et le désir des personnages, l'ironie établit un espace pour le discuter avec le lecteur sur la nécessité de la tolérance, d'accepter que le monde puisse avoir des sens multiples, différents. C'est sous-entendu que je postule que l'intolérance est toujours justifiée par un discours dogmatique, univoque, non polyphonique, comme dirait Bakhti. Je me limiterai à deux auteurs, faute de mieux, quelques exemples donc, Ferdinand Oyono pour la période coloniale et surtout Amadou Kourouma pour les indépendances, mais aussi pour l'époque coloniale. Mais auparavant, qu'est-ce que la tolérance ? Je parlais tout à l'heure de la tolérance, mais de l'intolérance. Mais au fond, tolérer n'est pas une vertu. Le petit Robert donne à la définition la tolérance, je vous donne quatre domaines à peu près. La tolérance est le fait de ne pas interdire alors qu'on pouvait le faire. C'est également le fait de respecter les opinions et la liberté d'autrui pour le respect des différences. Pas plus une vertu quelconque, c'est faute de mieux toujours. En politique, c'est une dérogation admise à certaines règles par le législateur. Pour la paix sociale seulement. Au sens moral, la tolérance est la vertu qui porte à respecter ce que l'on n'accepterait pas spontanément, je dirais naturellement. Par exemple, lorsque cela va à l'encontre de ses propres convictions. Car vivre dans la cité exige que toute liberté ou tout droit implique nécessairement pour s'exercer complètement un devoir de tolérance. Une marge de tolérance des comportements chez autrui, contraire à ses propres valeurs. Et je vous renvoie à la première citation, et Magdalène Siroda le dit dans un livre collectif que vous trouvez en bibliographie aussi, qui est sur l'intolérance et la littérature. Elle dit ceci, je vous excuserai mon anglais qui n'est pas tout à fait à point et qui peut-être ne le sera jamais, on porte toujours son histoire et on en est fier. Puisque c'est ça la limite aussi, qu'on ne peut pas tout maîtriser au cours d'une vie. Et que c'est déjà la limite d'accepter qu'on puisse ne pas être cet idéal-là et qu'on ne peut pas l'imposer. There is a common distinction between passive, etc. Vous pouvez continuer la lecture. Between passive negative and active tolerance. The first is bearing someone's behavior and refraining from aggression. The latter is involving in defense of the discriminated. As Voltaire said, I do not like your opinions, but till the end of my life, I will be fighting for your right to propagate these opinions. En médecine, on dit que la tolérance est la faculté d'un malade à supporter certains traitements, comme la chimio. Il paraît que c'est dur, ma sœur me l'a dit. Les malades intolérants, alors, peuvent en payer le prix fort. Ici, les choses sont difficiles. C'est le malade qui doit tolérer. Et il devient intolérant, donc il paye le prix fort. On peut se demander s'il n'y a pas une idée, une idéologie de la responsabilisation du malade et de la disculpation du médecin qui a cette prétention de tout guérir. En technologie, il y s'agit de la tolérance et consiste à l'acceptation d'une légère différence entre une mesure théorique et la mesure réelle. En résumé, sur la définition, le champ sémantique du terme incite à la méfiance. Je cite Claude Sahel, dont vous trouvez la définition, c'est la citation 2. Et vous trouvez aussi en bibliographie Claude Sahel, La tolérance, un livre qui a été publié, je crois, en 2000, quelque chose comme ça. Il y signifie la capacité d'admettre et respecter ce qu'on désapprouve, c'est-à-dire ce qu'on devrait normalement refusé. On admet quelque chose faute de mieux. La tolérance, donc, c'est une pensée au centre de nos rapports avec l'autre dans toutes les sphères de la vie. Elle est donc, paradoxalement, la qualité qui porte à accepter une certaine mesure de l'intolérable. On ne peut donc pas penser la tolérance sans penser à l'intolérance. On parlait même, vous connaissez l'expression, de maisons de tolérance, où des actes jugés répréhensibles par la bien-pensante morale bourgeoise se commettent, maisons de tolérance sur laquelle même la police de mœurs ferme parfois les yeux pour la paix sociale. Et si les parents tolèrent certains comportements des ados, à bon entendeur, salut! Ils ne le font pas pour la paix familiale. Ils ne le font que pour la paix familiale et non pour la vertu de la tolérance. Donc, nous défendons quelque chose qui est bizarre du point de vue philosophique et du point de vue de la pensée. Il y a donc des seuils. C'est le deuxième point, en fait, pour la définition. Il y a donc des seuils de tolérance. Penser la tolérance exige donc de penser ces seuils. C'est que ce champ sémantique large amène la question du rapport à l'autre et pose celle du pouvoir. Et je vous rappelle encore la citation de Claude Sahel. Donc c'est la citation 3. Ce que je vais dire s'y rapporte. Claude Sahel rappelle que admettre, respecter, tolérer sont des postules intellectuelles qui supposent une dissymétrie fondamentale dans la relation avec autrui. Car celui qui est en position de tolérer, c'est celui qui a le pouvoir d'écraser, mais ne le fait pas. A-t-on jamais vu un vaincu tolérer son vainqueur? Un esclave tolérer son maître? Seul le maître assuré de son pouvoir peut offrir à sa bonne conscience le luxe d'admettre l'existence de celui qui ne menace plus l'exercice de sa domination. Fin de citation, c'est la citation 3 donc. Il ajoute que, mais ça je ne vous ai pas donné la citation, je la cite, il ajoute que pour le faible, il ne s'agit pas de tolérer mais d'obéir. Ce qui est une prudence inframorale, ajoutait-il, pour un sujet qui ruse avec une force supérieure. Prudence inframorale, certes, mais qui, historiquement, a sauvé pas mal de peuples ou des individus, qu'on pense par exemple, et qui peut être considéré comme une forme de résistance, de la même manière que la violence contre la violence. Qu'on pense par exemple au cas du maranisme. Ces juifs de l'hémisphère ibérique, Portugal, Espagne, à qui on proposait de choisir entre le bûcher ou la conversion, qui acceptaient la conversion, qui allaient donc voir les églises, mais qui quand même pratiquaient le Shabbat chez eux le soir. C'est-à-dire que dans une force supérieure, intolérante, comment sauver ce qui peut être sauvé? Sa conscience. Je voulais nuancer en fait ici la citation de Claude Sahel, dire qu'au fond, l'obéissance est très passive, parce qu'il y a une forme de, comme ici c'est une forme de d'obéissance en apparence, mais qui, quand vous êtes dans une situation, n'est obligé de sauver sa peau, tous les registres pour survivre existent. Ils vont au-delà de la morale publique. Il s'agit pour le sujet de considérer comment, avec lui-même, il ne se renie pas. Bon. C'est que la naissance du terme tolérance, au fond, est historiquement liée, au fond, à l'inscription du sujet dans le champ du politique. La tolérance est liée donc à l'histoire de la liberté, du moins dans nos sociétés occidentales. Depuis les travaux sur le sujet par John Locke, la tolérance est associée à la naissance du libéralisme et à la notion d'état de droit. Il s'agissait à cette époque de penser la place que devaient avoir les idées différentes de celles des religions dominantes, car le lieu de la tolérance par excellence semble être l'espace public sous forme de collectivité organisée comme État. Quel est alors le signe ou les signes de la bonne santé de la tolérance dans la cité? On me dit que c'est une minute. Bon, ok, c'est une minute, c'est pas beaucoup. Hein. Alors, le signe, c'est la place qui occupe les arts et les lettres. C'est la place que peuvent y occuper les figures de l'humour et de l'ironie. Pourquoi? Parce que accepter ces figures dans l'espace public, c'est dépasser le discours dogmatique. C'est accepter le jeu du double sens de ces figures. C'est dépasser les pièges de la pensée unique. Le double sens des mots incite au dialogue, une situation de privilège. On constate qu'il n'existe qu'un sens, qu'il n'existe pas qu'un sens de mots. Ce doute, donc, ouvre entre l'humoriste et le lecteur sur les valeurs en jeu. Et quels sont les procédés utilisés dans le débat littéraire? Bon, je n'irai pas jusqu'à la définition du double jeu, donc, de la... Je donnerai quelques exemples. Regardez l'exemple de... Pendant la période coloniale, donc je donne très rapidement pendant ces minutes pour le corpus, Ferdinand Oyonnax a utilisé... Il a publié un roman, Le vieux nègre et la médaille, que vous aviez dans la bibliographie, en 1956, donc, durant la période coloniale, et il utilise un humour, donc, et une ironie de temps en temps, pour montrer qu'en fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit de discuter avec le lecteur. Et qui est ce type de lecteur? C'est un lecteur humaniste qui comprend que la fraternité humaine est une valeur fondamentale sur laquelle se fondent les relations entre les hommes. Et c'est, au fond, la déconstruction du discours dominant à l'époque, c'est celui de la colonisation comme œuvre de civilisation. Et le roman consiste en bout de ligne à montrer que, au fond, ce discours ne fonctionne pas. Ce n'est qu'une pile idéologique, mais en même temps, déconstruire ce discours, c'est le rétablir avec un lecteur qui est capable de comprendre que les pratiques ne concordent pas avec les principes de la fraternité. Bon, le roman est connu, c'est un vieux, c'est un personnage méca qui a donné cet air à la mission catholique et qui a donné ses deux fils aux guerres coloniales françaises et qui est resté seul avec sa femme. Et pour récompense, le 14 juillet, on l'invite, fête nationale française, on l'invite pour qu'on lui donne une médaille de remerciement. Mais qu'est-ce qui arrive? Il arrive qu'au cercle où il a été invité, les Blancs se trouvent devant, lui il est dans un cercle à part, et les Noirs, les Africains sont à l'extérieur, isolés. Et il y a toute une situation comique, mais à la fin, quand il y aura un orage terrible, vous avez donc la citation 4, il s'opère dans un quartier des Blancs, il est emprisonné, et alors il va discuter vers la fin. L'amitié ne pouvait-elle se fonder que sur le vin d'honneur? Et même en buvant son vin d'honneur, des Blancs choquaient leur verre entre eux. Où était cette amitié? Donc c'est tout un humour, en fait, qui rétablit en quelque sorte le discours de la fraternité supposé, véhiculé par... Il fait la même chose pour le père Vandelmaier, le prêtre. Et il souligne son esprit mercantile alors que c'est l'homme de Dieu qui est amené à qui est supposé évangéliser les nègres païens pour qu'ils accèdent aux valeurs du christianisme, c'est-à-dire de penser l'autre comme soi-même. Selon la missive de Paul. Pour les romans de Kuruma, donc je n'ai pas le temps de vous commenter tous ces textes-là, il s'agit tout simplement de la parodie de deux grands discours. D'abord le discours colonial lui-même, le discours de la civilisation, de la fraternité, de la France-Afrique, et de montrer qu'en fait, il y a un écart entre le discours et les faits. Et de l'autre côté, il y a le discours de la négritude libératrice, c'est-à-dire que les Africains, pour se retrouver, il faut qu'ils renouent avec le passé précolonial qui est supposé être une période de l'Eldorado mythique où tout était concorde, hospitalité et autres valeurs fondamentales. Et il y déconstruit en fait les deux discours pour dire qu'au fond, ça ne fonctionne pas. Parce qu'au fond, il montre un personnage, entre autres personnages, Fama, qui a donné tous ses biens pour lutter pour l'indépendance. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il reçoit? La carte d'identité. Et les autres morceaux les plus viandés sont donnés au secrétaire général du Parti unique. Et à la fin, le dernier texte, vous pouvez voir que les romans de Kuruma ratissent large. C'est-à-dire depuis l'époque coloniale jusqu'aux guerres civiles des années 2000. Voilà, je vais terminer peut-être sur celui-là. Vous voyez, par exemple, dans « Allah n'est pas obligé », en usant d'un syllogisme, de la répétition, de l'analogie, la narration runique met au pied l'égalité. Taylor, le chef de guerre au Libéria, il est actuellement emprisonné, Inch'Allah. Les autres figures politiques de la région, comme Compaoré, il a quitté aussi, Inch'Allah. Houphouët-Boigny, il est mort de sa mort naturelle. et Kadhafi, il est parti, Inch'Allah. Comparé à Taylor, comparé la dictateur du Burkina, ou Fouette Boigny, le dictateur de la Côte d'Ivoire, et Kadhafi, le dictateur de la Libye, sont déjà bien. Déjà apparemment bien. Il répète pourquoi éventuellement le lecteur qui n'a pas compris comprenne sa distance. Pourquoi porte-t-il des aides importantes à un fief menteur, à un fief voleur, à un bandit de grand chemin comme Taylor? Pour que Taylor devienne le chef d'un État. Pourquoi? Pourquoi? De deux choses l'une. Ou ils sont malhonnêtes comme Taylor, ou c'est ce qu'on appelle le grand politique, la grande politique dans l'Afrique, des dictatures barbares et liberticides, des pères des nations. Au fond, le roman donc ouvre le débat sur le politique, avec un lecteur évidemment qui voudrait au fond une politique, c'est-à-dire une action pour le bien commun dans la cité. Donc le régime de base du mot police. Alors, il y a une autre ironie très, très intéressante dans le 5 minutes. Il reste encore deux.
Ah bon?
Oui. Je voulais vous parler aussi que dans ces romans, il y a quelque chose de très intéressant par rapport à la notion de tolérance. C'est vraiment l'ironie tragique. L'ironie tragique qui consiste en ceci, que les personnages de Dans les soleils des indépendances dans Monet, ils évoluent sans savoir un bout de lit. Seul le lecteur sait que les jeux sont faits et qu'en fait, ils vont se faire avoir. Et eux, ils évoluent comme si de rien n'était. Et en fait, à un moment donné, on le trouve sympathique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il nous ramène à cette idée. Et je vais peut-être terminer là-dessus. C'est ce que disait... C'est ce que disaient, par exemple, certains philosophes. Au fond, pourquoi tant courir? Pourquoi tant s'agiter? Plus que de toute façon, on ne maîtrise pas le destin. C'est-à-dire l'idée que on ne maîtrise pas le destin. Djibouti ne savait pas que la colonisation allait venir. Et il agissait comme si de rien n'était. Et du coup, il tombe dans le panneau, dans la nasse, mais il n'a rien fait. Et à partir de ce moment-là, la tolérance est là aussi avec cette ironie donc tragique. C'est que la condition humaine étant limitée, peut-être... les agitations devraient l'être aussi pour nous. Mais ça, j'ai parlé au niveau, je termine sur cette réflexion qui s'ouvre sur la tolérance dans le cadre de la vie privée. Par exemple, comment réfréner les passions destructrices qui nous animent, la haine, la jalousie ou la méchanceté gratuite. La pensée, par exemple, et là, la littérature aussi nous donne... un clin d'œil. Pensez au théâtre grec avec la figure de Médée, celle d'une épouse consumée par la jalousie qui en vient à tuer par représailles les enfants qu'elle a eus de son époux Jason. Souvent dans la réalité, on peut avoir ces figures-là, mais la littérature avait déjà tout prévu. Faut-il la lire? Faut-il lire ces textes? Faut-il regarder ces pièces de théâtre, pour la modestie, pour laisser la place à l'autre. Merci, Isaac. Que quand